Alors aujourd'hui, nous allons parler de la parole. C'est un petit peu étrange, puisque c'est avec des paroles que je vais vous parler de la parole. Mais c'est bon, dans ce temps de Noël, de faire un arrêt, justement, d'arrêter un peu toutes les sollicitations qu'on a et de se demander finalement à quoi sert notre parole, à quoi sert la parole. Ça sert à communiquer. Déjà, ça sert à se dire bonjour, ça sert à donner des bonnes nouvelles, à construire des projets. Et puis on sait aussi que la parole, elle peut être mal utilisée. C'est un outil qui peut être bien utilisé ou mal utilisé. Elle peut servir à juger, elle peut servir à diviser. Mais elle peut aussi changer le cours d'une vie. Je me souviens du récit d'une cousine qui disait qu'un proviseur, simplement avec cette parole, avait changé le cours de sa vie. Il lui avait dit « Tu ne seras pas infirmière, tu seras médecin. » Et avec sa parole, il l'avait élevée. Et il y a énormément de paroles dans le monde, il y a énormément de paroles dans nos vies. Moi, quand j'étais jeune, je me disais « Mais si Dieu est attentif à toutes mes paroles, alors là, je ne vais pas aller là-haut très très vite. » C'est difficile parce que nos paroles sortent comme ça rapidement de notre bouche sans qu'on y réfléchisse toujours. Mais dans la parole dont parle ce texte de Jean, il y a une autre parole. Il y a aussi une parole qui se passe de mots. Si vous voyez entrer quelqu'un dans une pièce, par exemple, et qu'il n'y a pas de parole, eh bien vous recevez cette parole, vous recevez cette personne avec des signes qui vous parlent. Ça va vous parler. Vous allez analyser, peut-être juger aussi, ça vient vite aussi après. Et les visioconférences qui se sont développées pendant le Covid nous ont fait comprendre que on peut pas, c'est pratique d'avoir des visios, et je les utilise évidemment beaucoup, mais c'est aussi irremplaçable d'avoir une vraie présence. Et votre vraie présence ici dans ce temple le montre aussi. Vous n'allez pas vous satisfaire d'aller regarder un culte à la télé. Et la relation, elle est différente et elle est vivante, et peut-être qu'on n'en a pas encore compris tous les enjeux quand on est juste en présence. Alors la parole, elle peut être au service d'une dimension uniquement horizontale. C'est-à-dire que je peux rester simplement à la surface des choses. Je peux parler de la pluie et du beau temps, je peux parler de l'organisation avec ma famille, avec mon travail, mes amis. Et rester à la surface m'évite d'aborder des questions difficiles, des sujets délicats, et parfois c'est très bien comme ça. Ça permet d'être en relation avec certaines personnes. Voilà. Et pourtant, Jésus vient dans le monde, et le début de l'évangile de Jean nous dit qu'il est parole de Dieu. Jésus vient se glisser dans nos paroles humaines, au cœur de nos relations, et il vient vivre l'intersection entre notre horizontalité humaine et la verticalité, c'est-à-dire la verticalité, il y a la profondeur en moi-même, des choses que je ne dis pas, des choses que je pense, des choses que je ressens, et puis il y a l'élévation vers la dimension divine, vers Dieu. Et évidemment, entrer dans cette dimension de verticalité, elle nous engage. Les paroles profondes, ça parle à nos cœurs. Les paroles qui élèvent, eh bien souvent, elles nous font exister. Un exemple que je peux donner, c'est par exemple la parole de la mère, du père ou de l'adulte qui va dire à l'enfant « N'aie pas peur, je suis là ». Ça va parler à son cœur. Ou bien « Confiance, tu vas y arriver, tu peux viser plus haut ». Si Jésus est venu incarner la parole de Dieu, c'est pour nous dire que Dieu, eh bien, il nous parle, et non seulement il nous parle, mais il s'engage dans sa parole. Si par exemple, par la Bible ou par un autre moyen, nous sentons que Dieu dit « Je suis avec toi », ou bien « Confiance, tu peux y croire », alors nous pouvons recevoir cette parole en lâchant nos peurs, nos volontés de maîtrise, nos certitudes. Mais évidemment, Jésus se glisse dans notre parole humaine, et nous savons que la parole humaine, eh bien, c'est aussi le lieu de la défiance, du mensonge, de l'hypocrisie. Alors, Je ne sais pas si vous connaissez cette chanson pour les plus jeunes, qui était chantée à l'époque par Alain Delon et Dalida, qui s'intitule Parole, parole. Parole, parole, parole. C'est un dialogue entre un homme et une femme qui nous fait comprendre que les paroles d'amour prononcées par l'homme n'ont pas toujours de fondement. La femme dit encore des mots, toujours des mots magiques, des mots tactiques, des mots que tu sèmes au vent. Caricature et ironie de ceux et celles qui parlent, qui font des promesses et ne les tiennent pas. Alors dans ce genre d'exemple, on aurait pu citer aussi ce qu'on appelle les fake news, les fausses nouvelles qui font tellement de mal, les rumeurs. Alors c'est important de se poser régulièrement la question, quel sens a les paroles que je prononce? Quel fondement? Quelle réalité? Quelle honnêteté avec ma propre profondeur, avec ce qu'il y a en moi? Parce qu'on le sait, quand on dit de quelqu'un on peut lui faire confiance, c'est que sa parole, elle est suivie d'actes. Mais si mes actes ne suivent pas ma parole, eh bien, on n'aura pas envie de me faire confiance. Et du coup, les paroles de Jésus interrogent la cohérence de notre vie. Si, en effet, ce que nous disons est en cohérence avec nos comportements, si ça a du sens. Alors, avec la venue de Jésus, nous sommes appelés à vivre pleinement aussi cette intersection entre les deux dimensions, humaine et divine. Notre horizontalité de la vie humaine, elle est appelée à s'étirer dans la dimension de la profondeur et vers l'élévation. Un petit exemple, pour une même chose, une même action, on prend trois tailleurs de pierre qui sont en train de tailler leur pierre. On en a parlé des tailleurs de pierre avec la rouverture de notre cathédrale Notre-Dame. Vous prenez trois tailleurs de pierre. Il y en a un à qui on pose la question « Que fais-tu ?» Le premier va répondre « Je taille une pierre. » Le deuxième, on lui dit « Que fais-tu ?» Il va dire « Je construis un mur. » Et le troisième, « Que fais-tu ?» Il va répondre « Je bâtis une cathédrale. » Ces trois hommes font la même chose, mais ils s'inscrivent dans le sens de ce qu'ils font et dans un monde bien plus grand, bien plus large. Réjouissons-nous de faire partie d'un ensemble de vie bien plus large que juste notre petit monde. Jésus vient se glisser dans notre humanité pour nous encourager et nous dire oui, c'est possible de se mettre au service d'une autre puissance que celle du mal, du mensonge, de la peur de l'autre, de la lâcheté. Je dis qu'il se glisse parce que sa présence ne peut être que confidentielle. En effet, le texte nous dit que le monde ne l'a pas reconnu, et quand on voit tout ce qui se passe autour de nous, on se dit « Mais pourquoi est-ce que je vais faire différemment ? Pourquoi je ne vais pas me laisser entraîner par les autres, par le mensonge ?» Et quand j'entends ce qui se passe sur les réseaux sociaux, eh bien, ça confirme notre difficulté humaine à reconnaître, à discerner ce qui est bon pour nous. On a tellement du mal à entrer dans ce qui est bon, parce que souvent, on se sent plus puissant à prononcer des paroles mortifères. C'est là où l'être humain développe sa puissance et il laisse cours à ses pulsions, à ses émotions, à ses envies. Et c'est difficile. On est des êtres complètement mêlés, mélangés. On a des luttes intérieures par rapport à ce qu'on est à l'intérieur. Pourtant, Dieu nous a créés ainsi, avec notre parole, mais aussi avec toutes ces émotions qui nous envahissent parfois, qui nous emmènent là où on ne voudrait pas. Et les émotions, eh bien, en tout cas, ma génération, on n'a pas appris à les exprimer avec des mots. Et pourtant, quand on apprend à les dire, eh bien, c'est un vrai soulagement pour soi-même et pour l'autre aussi. Mais Dieu nous donne les mots. Dieu nous donne les mots pour dire les choses. La parole est l'outil qui me permet de comprendre et d'interpréter le monde dans lequel je vis, mais aussi moi-même, de me trouver des mots pour exister. La parole me permet d'entendre l'altérité de l'autre, la différence de l'autre. Alors, je ne sais pas vous, mais j'ai la chance d'avoir une famille avec qui on peut passer des bons repas pour Noël. Et c'est vrai qu'on essaye de faire des plats qui plaisent à tout le monde. parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas telle ou telle chose, et puis comme c'est la fête, et ben on va faire attention pour plaire pour que tout le monde ait quelque chose de bon à manger. Et comme le dit un proverbe, il faut de tout pour faire un monde, même si on ne comprend pas la position de l'autre. Et c'est bien ça le drame, c'est qu'on ne comprend jamais pourquoi l'autre pense différemment. Et pourtant, cette altérité, cette différence, c'est ça le défi que Dieu nous donne. C'est ça le défi du commandement d'amour. Aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain comme toi-même. Il le sait bien qu'on est différent, il le sait qu'on est appelé à être ensemble, et Jésus est là, en tant qu'homme, pour nous y encourager, nous montrer que c'est possible, et que ça donne un grand bonheur d'y arriver. Alors, pour comprendre l'autre et sa différence, il y a un outil dans ma vie qui m'a beaucoup, beaucoup aidée. C'est le livre. Je peux dire que les livres m'ont personnellement beaucoup aidée à découvrir qui sont les autres. En effet, je ne peux pas être dans la tête des autres personnes, dans votre tête, je ne peux pas savoir quelle est votre vie, votre histoire. Et c'est bien qu'on garde des choses tout à fait personnelles et intimes. Par contre, le livre nous permet de comprendre peut-être l'altérité, de comprendre pourquoi l'autre va agir différemment de moi. Pourquoi je suis choquée par un comportement et pourquoi y a des raisons à ce comportement. Mais cela ne justifie pas tout, bien sûr. Une écrivaine belge, Josiane Koucheman, a dit « Le livre est un billet de voyage à la portée de tous. » Grâce au livre, on a la possibilité d'entrer dans le secret d'une vie. On découvre le monde de celui qui vit les choses différemment. Ça peut être le monde de quelqu'un qui est handicapé, quelqu'un qui a un souci de la planète, quelqu'un qui a connu la guerre, quelqu'un qui accueille les étrangers, etc., etc., etc. Et vous aurez sans doute 1000 autres exemples, sans compter que le livre peut être ludique, il peut y avoir des romans policiers, il peut y avoir de la poésie, il peut y avoir toutes sortes d'écrits. Et puis l'avantage du livre, c'est qu'il me permet de recevoir les mots et les paroles à mon rythme, sans être distrait par les images, sans être attiré par les images. Les images, c'est d'autres paroles. C'est peut-être pour ça que la Bible, c'était une parole écrite. Alors, on peut la mettre en image, on peut faire des bandes dessinées, ça existe. Mais en fait, le mot va rester. Et l'image, c'est un autre mot, c'est un autre langage. Ça me permet aussi de comprendre, mais c'est pas pareil. En tout cas, un livre, je peux m'arrêter, je peux le refermer et réfléchir. Si j'ai trouvé une phrase qui me parle, je peux juste la garder pour moi et la laisser mûrir en moi. Oui, tous les moyens sont bons pour découvrir la richesse des mots et là où ils nous emmènent. Dans le tout premier récit de la Genèse, eh bien, la première relation entre l'homme et la femme ne peut exister que par la parole. L'image de Dieu, c'est que nous sommes des êtres parlants. Alors bien sûr, on peut dire plein de choses avec la parole, j'en ai déjà parlé, mais c'est le propre de l'être humain, de parler. Et du coup, pensons toujours que cette parole peut être l'intersection de la dimension humaine et divine qui se glisse en nous. Alors la parole, eh bien, dans la vie de Jésus, il a parlé bien sûr, mais sa vie était parole, son comportement était parole, la manière dont il s'est adressé aux gens était parole. Elle faisait sens. Et donc la parole, c'est parfois sans les mots. Lundi dernier, je suis allée à la mairie de Montrouge, parce que vous avez peut-être entendu que dans la France entière, il y avait une minute de silence, en respect des victimes de la tempête Chido, qui a tué, alors on ne sait pas combien de personnes, mais peut-être des centaines, je ne sais pas, des milliers, en tout cas beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, à Mayotte, un des départements français d'outre-mer. Évidemment, le propre de cette tempête, c'est de mettre le projecteur sur la situation de cette île et de comprendre comment les citoyens vivent dans cette île de manière si difficile. Une minute de silence, c'est assez long, et je dois dire que la personne n'a même pas respecté la minute entière. Et en fait, on n'est plus habitué au silence. Dès qu'on a un peu de silence, on se précipite sur nos téléphones portables. On a du mal à accueillir notre propre compagnie. Et pourtant, il est bon de rester en silence. Il est bon parce que il n'y a pas de vide. Nous sommes avec nous-mêmes et nous pouvons être avec Dieu. Et le silence peut nous faire redécouvrir la valeur d'une parole, justement. Jésus se fait parole. Il vient cheminer à nos côtés, nous inspirer des réflexions, des nouveaux chemins, il nous guide. Et si les paroles, c'est qu'il désire être notre interlocuteur pour parler avec nous. On peut tout lui dire, vous le savez, tous les jours de notre vie, on peut être en interaction avec lui. Jésus se fait parole d'amour. Alors, en ce temps de Noël, laissons-nous guider par lui. Ouvrons-nous à tout ce qu'il peut nous donner. Et ensuite, eh bien, à nous de partager avec d'autres une parole de vie, de paix, de vérité, de joie, d'espérance. Oui, nous serons alors en plénitude dans une dimension humaine et divine, en Jésus-Christ. Amen.